Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. J'ai trois muses. Patrice Evra, qui m'inspire à chaque fois que je le revois depuis Nice-Na. Stromae, qui fait partie des rares artistes auxquels j'ai envie d'accoler le qualificatif de génie. Et Martin Mosnier, mon fidèle acolyte depuis des années. Cette semaine, j'ai eu affaire aux trois. Evra en fin de semaine, Martin tout le temps, et Stromae dimanche dernier. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte et n'ont pas vu Stromae au JT de TF1, sachez qu'il a terminé son interview en chanson. Comme souvent, lorsqu'il passe à la télé, le chanteur belge a tenté quelque chose d'unique. Et là, il faut le dire, encore une fois, il a tapé dans le mille. Quand j'ai vu Stromae répondre à la question d'Anne-Claire Coudray sur son mal-être, ses idées noires et la musique comme remède à la solitude en entonnant sa nouvelle chanson, j'ai tout de suite imaginé Martin dans le FC Stream Team en faire de même en répondant à une de mes questions. Imaginez un peu, on est en février 2018, je pose à Martin la question suivante. Alors Martin, comment tu sens ce match retour entre le PSG et le Real Madrid ?
PSG-Real, c'est dans 4 jours et c'est déjà la galère.
Simple.
Tu perds 3-1 à l'aller et Neymar a sa cheville en l'air.
Basique.
Non mais là on va arrêter le massacre. Non, en fait c'est pas une bonne idée. On va rester sur Stromae au JT, c'était très bien. Et là on voit que c'est pas pour tout le monde la chanson. Hein. Ça t'a plu ?
Donc en fait, chaque fois que tu peux la sortir, ça dit qu'il la sortira, hein, c'est ça ?
Non mais non. En fait, je m'étais promis.
Tu n'as rien promis du tout.
Je m'étais dit, je l'ai mis une fois, je trouvais que c'était suffisamment violent. Et puis il y a eu Stromae, j'y suis pour rien. Je l'ai vu. D'ailleurs, c'est exceptionnel pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est fantastique. À chaque fois qu'il passe à la tête, de toute façon, il se passe quelque chose. Et je me suis dit, imaginez un peu.
Par contre, toi, ça fait 6 ans que tu fais la Stream Team, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Maxime.
Ah ouais, non mais oui, ben... ouais, mais là, vaut mieux s'abstenir, je pense. Hein.
Ah mais quel enfoiré. Tu vas me la ressortir toutes les semaines, c'est ça. Alors, je suis payé depuis ce matin, là, il se marrait dans sa barbe avec Adrien, donc celui qui réalise l'émission avec nous, là, il se marrait. Nanana. Toujours la même chose, en fait. Vous marchez sur un gag, les gars.
Bah, alors ça, tu peux pas être étonné me concernant. Je marche sur un gag depuis qu'on se connaît, à peu près, ou deux.
C'est vrai. Mais tu sais qu'il va falloir un peu te renouveler, Maxime, parce que, bah, en plus, tu le sais, tu vieillis.
Je vieillis.
Je vais pas révéler les coulisses de cette émission, mais ouais. Juste avant qu'on tourne l'émission.
Ah, ça y est.
Maxime disait, ah, les gars, je crois qu'il y a un petit problème au ménisque.
Ouais, mais c'est pas moi.
Je crois qu'il va falloir que j'arrête ma carotte. Mais c'est dur. C'est trop dur, tu vois, de se résoudre à ça. C'est trop dur. Mais Maxime, il faut se renouveler. Voilà, c'est exactement ça. Il faut se renouveler. Il faut le fresh restart, tu vois.
Moment, ouais, mais tu sais, je pense que c'est comme les enfants qui regardent toujours le même dessin animé. Petit ours brun, par exemple.
Ouais, exactement.
C'est rassurant d'une certaine manière de raconter toujours les mêmes histoires et toujours revenir aux mêmes arguments. Donc, et c'est peut-être pour ça que les gens nous écoutent, parce qu'on raconte la même chose toutes les semaines. Et
donc, ça
les rassure.
Que notre prise assez brillante, mais que tu trompes parce que tu prends le pire extrait, donc de Basique, de Cyril et moi, c'est un peu ton doudou.
C'est un peu mon doudou, et encore, vous n'avez pas les images. Et c'est encore mieux parce que là, il y a une vraie interprétation. On sent que les mecs qui sont portés par l'événement, portés par l'argent et qui croient en ce qu'ils font. Et ça, c'est plus important parce que si tu commences à douter de ce que tu fais, t'es pas bon. Et là, vous êtes très bon parce que justement, vous êtes complètement dans le rôle et c'est formidable.
Et très vite, on s'est rendu compte quand même. Très vite, on doutait de ce qu'on fait.
Alors, et pour l'anecdote, on en revient toujours à cette histoire-là de chanson que vous aviez interprétée. C'était une intro de Stream Team, ancienne version. À l'époque, c'était pas un podcast. Et moi, j'étais en vacances. D'ailleurs, ça m'étonne parce que je prends jamais de vacances. Et j'avais vu l'émission et j'avais eu un gros doute. Et j'étais, tu sais, c'est un peu comme quand t'es pas là, qu'il se passe quelque chose. T'es content finalement de pas être là, parce que tu peux dire, ah, moi, j'y suis pour rien. Hein.
Comme quand t'as une alarme, ta maison brûle. Quoi.
C'est un peu exactement.
Ok, très bien. Bon, Maxime, on va quand même parler football, peut-être. C'est un peu le but de cette émission.
Bah, on finit par l'oublier, mais oui, c'est le but de cette émission qui est composé à 33% d'intro et d'outro et de discussions diverses, et quand même pour les 66 autres pourcents de football. Donc on va essayer de relever le niveau, parce que ta chanson, je vois sur les audiences, ça fait perdre du monde. Donc on va y aller et on va commencer, Martin, par la Ligue 1 et Jean-Michel Aulas.
Donc on se demandera dans le premier sujet à quoi joue Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu ses déclarations sur Europe 1. Il a notamment parlé de Laurent Blanc, il a évoqué Laurent Blanc, il a remis un petit coup de pression sur Peter Bosch. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété. Ce n'est pas mon interprétation, mais en tout cas, ce sera le premier sujet de l'émission. Ensuite, Maxime, on parlera de Lionel Messi.
Lionel Richie. On va parler de Lionel Messi, de L1 et surtout de Ligue des Champions, parce que samedi, on sera à un mois de PSG-Real Madrid, donc du grand rendez-vous. J'allais dire presque le seul qui compte pour le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Lionel Messi, qui se remet de son Covid, sera absent face à Brest au Parc des Princes. Et là, on est en train de se demander si, il reste un mois, mais ça va commencer à être juste quand même. Et est-ce que finalement, le PSG peut espérer avoir un Messi à 100% pour affronter le Real Madrid ? On en débattra dans la deuxième partie de l'émission. Et la troisième partie de l'émission, nous emmènera en partie du côté de l'Angleterre.
De Manchester City, puisque la presse espagnole annonce que Pep Guardiola met la pression à ses dirigeants pour recruter Erling Haaland. On se posera la question, est-ce que rejoindre City et Guardiola, c'est une bonne idée pour Erling Haaland?
On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes, vous appuyez sur le petit bouton abonner, comme ça vous recevez la Stream Team dans vos boîtes, dans vos applications toutes les semaines. Vous mettez des notes, vous mettez des commentaires, si possible des notes très bonnes, donc 5 étoiles. Les commentaires, vous dites ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est plus les notes qui nous intéressent. Donc, mais en tout cas, les commentaires, on s'en sert et ça nous nourrit. Souvenez-vous, ce brillant commentaire qu'on avait récupéré, je crois, sur Apple, il me semble. Où il faisait une analogie entre Martin et moi, c'était très bien. Ça nous permet en plus de faire moins de boulot pour préparer l'émission. Donc n'hésitez pas, allez-y, et on vous citera dans l'émission. Donc tout le monde est heureux. Et je pense que là, cette fois, on peut vraiment démarrer et parler football. Et on va parler de Jean-Michel Aulas, Martin. Jean-Michel Aulas qui a dit, pas plus tard qu'hier à Europe 1, qu'il pensait toujours à Laurent Blanc, mais qu'en gros, Peter Bosz, il n'était pas en danger jusqu'à fin février. Et j'ai envie de te demander, Martin, tout simplement, et là, pas en chanson, à quoi joue Jean-Michel Aulas?
En fait, je pense que tout ce qu'il a dit sur Europe 1 visait avant tout à tacler le travail de Juninho. Et je pense qu'il y a eu une surinterprétation du fait qu'il mette la pression sur Bosz en faisant référence à Laurent Blanc, alors que ce n'est pas lui d'ailleurs qui fait référence à Laurent Blanc. C'est une question qu'on lui pose. Est-ce que vous pensez toujours à Laurent Blanc? Et lui répond oui, j'y pense. À l'époque, j'étais solidaire avec Juninho. C'est un garçon qui a une expérience incomparable. Et après, il déroule sur Laurent Blanc. Mais pour moi, il allait un peu trop loin dans ses explications en voulant tacler Juninho sans révéler le secret de Polichinelle. Il avait déjà fait un peu la même chose chez nous et il s'était allé un peu. C'était laissé un peu emporter sur des déclarations sur Genesio, alors que Garcia était en poste, alors qu'on l'interrogeait sur Genesio. Là, ça m'y refait penser un petit peu. Je pense qu'il s'est emballé sur Blanc, qu'il l'a regretté, et surtout qu'il a regretté que ce soit perçu ainsi, c'est-à-dire comme une mise sous tutelle de Bosz ou une grosse pression sur Bosz. Parce que depuis, il faut voir ce qu'il a tweeté, ce qu'il a retweeté, et ça, c'est hyper important. Il a notamment retweeté un tweet de Christian de la Morinerie, qui est un des journalistes qui l'a interrogé, un des journalistes d'Europe 1, qui avait tweeté « Précision importante, l'information de Laurent Blanc, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a toute confiance en Peter Bosz, c'est costaud », donc ça il le retweet. Après il va répondre à un tweet qui fait état de cette affaire de Laurent Blanc et qui dit « Tout ça pour rappeler qu'à l'époque Laurent Blanc n'avait pas été retenu par le directeur sportif ». Il vise Juninho. Aujourd'hui, Peter Bosz est apprécié de tout l'OL et avec lui, on a une confiance absolue. Il a fait une série de tweets là depuis jeudi, quand l'information est tombée, pour renforcer Peter Bosz. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à mon tour, ses déclarations et le timing et ce qu'il voulait dire sur Europe 1, c'est qu'il voulait se désolidariser du travail de Juninho, du choix de Juninho, de ce qu'avait fait Juninho dans la nomination des entraîneurs. Mais qu'en aucun cas il voulait fragiliser Peter Bosz. Pour moi, après, on s'entend là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, si Peter Bosz ne fait pas 6 points contre 3 et Saint-Etienne, ça sent très mauvais pour lui. Notamment s'il ne gagne pas le derby face à des Verts qui sont 20e, qui sont privés de leur meilleur joueur à la CAN. Je pense qu'effectivement, ce sera très compliqué pour Peter Boss. Mais c'est pas, il n'a pas l'habitude de mettre la pression à ses entraîneurs, Jean-Michel Aulas. Il les défend plutôt toujours. Donc, moi, ce timing, il m'a surpris. Je suis allé faire un petit tour du côté de son feed Twitter et j'ai compris qu'en fait, ouais, c'était pas vraiment une pression sur Peter Boss, c'était plus pour saccager le travail de Juninho.
Je pense qu'il s'est, moi, à mon avis, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Et moi, j'ai un autre mot pour ça, c'est se défausser, tout simplement.
Ouais,
ce qu'il fait dans son tweet, il se défausse sur Juninho. Et quand tu te défausses, c'est souvent que tu as besoin de te justifier que tu as perdu ta superbe, ce qui est le cas de Jean-Michel Aulas, et d'abaisser tes responsabilités dans l'échec, alors qu'il assumait très bien les victoires de l'Olympique Lyonnais, et a raison d'ailleurs. Je trouve que ce n'est pas très classe déjà, tout simplement, vis-à-vis de Juninho, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul vis-à-vis des supporters de l'OL, qui garderont toujours une image, non pas immaculée de Juninho, mais quand même une image formidable, parce que le joueur, parce que ceci, parce que cela. Et a priori, et après tout, on peut très bien renvoyer à Aulas que l'erreur, Juninho, c'est lui qui l'a faite. Après, moi, j'ai eu envie de faire un peu de fact-checking et de revenir un tout petit peu sur l'histoire du « c'est le directeur sportif qui a choisi Rudy Garcia ». Ça me dérange un peu d'entendre ça parce que je me souviens très bien de l'époque. En effet, Silvinho est le choix de Juninho. Il arrive, c'est le package complet, la dot de la mariée. Tu vas choisir ton entraîneur, tu démarres un nouveau projet. Au bout de 3 mois, ça plante. On est au mois d'octobre, il y a le feu à l'OL. Et Aulas commence à être quelque peu castrateur avec Juninho en disant, en gros, il a besoin que je l'aide. En effet, en gros, il n'est pas prêt, etc. On les a cités ici plusieurs fois, ces déclats-là. Et je suis allé voir justement ce qu'il s'est dit le jour de la présentation de Rudy Garcia. Alors là, je vais lire, c'est une déclaration que j'ai retrouvée sur le site de l'Olympique de Lyonnais, qui était durant donc, la conf de présentation de Rudy Garcia. Écoutez bien, pour choisir Rudy Garcia. On a constitué un groupe de sélection très expérimenté. D'ailleurs, d'abord Juninho, car elle représente l'ADN du club. Il a pris la direction sportive et il va continuer. J'ai demandé à Gérard Rouillet pour son expérience, Vincent Ponceau, qui est là depuis des années, qui nous aide à prendre les décisions, et moi-même, en tant que président d'un grand club. Nous avons fait le choix en notre âme et conscience et à l'unanimité. Et derrière, il dit Juninho a fait le choix définitif de manière transparente. Bon, en gros, Juninho, il a mis le tampon sur le choix de tout le monde. Donc dire aujourd'hui que c'est le choix de Juninho, alors qu'il suffit d'aller sur Google, taper présentation Rudy Garcia OL, on retrouve ça tout de suite. Donc je trouve que ça manque un peu de classe. Après, quand il dit...
Après, pour moi, en fait... Il fait toujours la même chose. Là,
oui,
il protège
oui.
L'institution. Et aujourd'hui, Juninho ne fait plus partie de l'institution.
Oui, mais il protège.
Donc, il va tout mettre sur le dos de celui qui a quitté l'institution.
Oui, mais...
pour pouvoir... Je ne dis pas que c'est bien. Je dis pas
C'était possible, ça, il y a 10 ans. C'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'il y a eu trop de choses à l'OL qui ont fait que l'OL a perdu sa superbe. Et il fragilise son entraîneur, qu'il le veuille ou non. Parce qu'à partir du moment, déjà, il lui donne jusqu'à fin février, c'est déjà une forme de fragilisation. Il n'est pas dans le discours, on lui fait confiance. Pourquoi il ne dit pas « on lui fait confiance » Est-ce qu'il est obligé de donner un ultimatum? Non, il donne des garanties pour montrer qu'il est toujours le patron à bord. Et le pire, alors, t'as beau me dire qu'il ne cite pas Laurent Blanc, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui l'empêche de dire c'est une histoire passée, aujourd'hui c'est Boss? Non, il a dit « je pense ». Oui, on y pense. Et j'ai envie de lui dire qu'il aurait mieux fait d'y penser très fort au moment où justement il fallait remplacer Silvinho. Laurent Blanc, il était libre. Laurent Blanc, il a encore une fois et comme toujours souffert de l'image qu'il renvoie, de mec un peu en dilettante, que s'il n'y a pas Gasset, ça ne va pas marcher. C'est vraiment, je ne comprends pas le manque d'égard qu'on a envers Laurent Blanc. Jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être le mec qui a le mieux fait jouer le Paris Saint-Germain et on voit depuis des années que ce n'est pas évident. Donc je pense qu'ils ont fait une erreur, que là, Aulas, ce qu'il a fait à mes yeux, c'est de dire à Laurent Blanc « tiens-toi prêt, on ne sait jamais ». Voilà, pour moi. Et donc c'est à l'envers de ce qu'il faudrait faire, puisqu'il fragilise d'une certaine manière Peter Boss, et comme tu l'as dit, s'il n'y a pas 6 points contre 3, c'est ça que tu as dit, et Saint-Etienne, cette problématique, bah, ça pourrait être très vite problématique. Et bien bah, là, pour le coup, il faudrait espérer pour l'OL que Blanc veuille bien venir cette fois.
Mais alors, deux choses. Déjà, ça me semble normal que ce soit problématique, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est très, 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 très loin de ses standards. Et on pourrait quasiment se dire que Peter Bosch sont encore là. C'est un petit miracle pour lui. Ça, c'est une première chose. Moi, je pense que, effectivement, quand je dis qu'il s'est laissé emporter, je pense qu'il est encore derrière Bosch, mais qu'avec cette sortie aussi, il se ménage une porte de sortie, il a un petit coup d'avance et il se protège aussi. La sortie, elle n'est pas neutre. Et puis, c'est une question de timing. Le timing chez Jean-Michel Aulas, il est essentiel.
Le problème, c'est que ce n'est pas très subtil aussi.
Effectivement. Et alors, après, il y a autre chose, c'est quel président aujourd'hui peut se permettre de faire ça? Quel président aujourd'hui, j'allais dire en France, mais même dans les grands clubs, quel président fait ça? Mais un ultimatum à son entraîneur.
Ah bah, l'ultimatum, oui. Moi, ce qui me gêne, c'est quel président dit « oui, je pense » à un entraîneur qui n'est pas chez nous. Enfin, c'est terrible.
Ouais, il y a ça aussi, mais même les ultimatums aujourd'hui, ce ne sont des choses qui n'existent plus. Et le mode de, tu l'as dit, le mode de fonctionnement de Jean-Michel Aulas, qui pouvait fonctionner à une certaine époque,
oui,
mais aujourd'hui, après, moi, je trouve dépassé.
Je pense qu'il faut aussi rappeler les conditions de l'interview, c'est-à-dire que c'est Europe 1, et c'est Jacques Vendroux qui arrivait sur Europe 1, et je pense qu'avec Jacques Vendroux, sûrement une forme de connivence et de connaissance, parce qu'il connaît à peu près tout le monde du football depuis 40 ans, 50 ans. Donc voilà, là, il y a ça aussi, et il se laisse peut-être un peu plus aller. Mais le problème, c'est peut-être justement qu'il se laisse aller. Et vraiment, c'est étonnant comme réponse, le oui, oui, on y pense, enfin oui, j'y pense, enfin c'est... Il a le droit de dire le contraire de ce qu'il pense, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'en est plus capable finalement, et qu'aujourd'hui, c'est moins bien accepté parce que c'est plus Aulas le tout-puissant, et comme il y a des erreurs qui sont accumulées, on se dit que rien que va, la forme, le timing, etc. Donc je pense que là, encore une fois, il n'a pas rendu service à son club en faisant cette interview, et du moins en répondant à ces questions-là, de cette manière-là.
Allez Maxime, on va arrêter de parler de l'Olympique Lyonnais, on va parler de son adversaire de la semaine dernière, le Paris Saint-Germain, et notamment de Lionel Messi. Lionel Messi qui sera forfait, j'ai envie de dire une nouvelle fois, ce week-end face à Brest, où Messi qui n'a toujours pas joué en 2022 avec le Paris Saint-Germain. Maxime, la question elle est simple, le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, qui reste évidemment l'événement majeur du Paris Saint-Germain, cette saison a lieu dans un mois. Paris peut-il se permettre d'arriver avec face au Real Madrid avec un Messi qui a si peu joué?
Alors, la chance du Paris Saint-Germain, c'est qu'il reste un mois. Et si on enlève le match de samedi face à Brest, il reste quoi derrière? Il reste Reims, Nice en Coupe de France, Lille et Rennes. Ce parcours, on va dire, jusqu'au Real Madrid, il ressemble un peu à une montée en puissance finalement. Même si on pourrait changer un peu peut-être Nice, le mettre plus loin, etc. Et finalement, bah, ça ressemble à une bonne rampe de lancement pour le Paris Saint-Germain, et surtout pour Lionel Messi. Voilà. On sait qu'il y a une trêve internationale au milieu de tout ça, mais que Lionel Messi va très très certainement la zapper, parce que l'Argentine n'a pas besoin de lui, l'Argentine est déjà qualifiée, parce que Messi a suffisamment voyagé, a suffisamment manqué de matchs, et suffisamment fatigué pour repartir en Amérique du Sud pour faire des matchs qui comptent pour du beurre, même si l'équipe nationale ne compte jamais pour du beurre. Donc la meilleure chose qui puisse arriver à Lionel Messi, c'est, ça aurait été de jouer évidemment face à Brest, mais finalement ça va être si possible pour le Paris Saint-Germain de jouer ses 4 prochains matchs, parce qu'il n'a pas beaucoup joué en début d'année, on ne va pas revenir sur les rencontres, mais il joue 11 matchs de championnat, un but, c'est famélique, 4 passes décisives, dont 3 dans le même match face à Saint-Etienne, donc en gros il était décisif sur 3 matchs, donc on sait très bien qu'il est encore en phase de rodage. Alors vous allez me dire qu'en Ligue des Champions, c'est mieux, c'est vrai, mais c'était les matchs sur lesquels il était un peu plus concerné, on va dire, et où on le concernait plus. Ce sera de la Ligue des Champions face au Real Madrid, oui, sauf que là, ce sera encore le niveau au-dessus et qu'il y a élimination directe. Mais au final, moi, alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais c'est pas tellement pour Messi que je suis inquiet, parce que si c'est une question de forme, il a 4 matchs, un mois, il y a le temps de repartir. En revanche, là où c'est embêtant, c'est toujours pour Paris Saint-Germain, parce que finalement, c'est Messi, mais c'est toujours le problème de ce qu'il y a à côté, c'est que Neymar est blessé, il va revenir. Est-ce que Neymar aura le temps? Est-ce que le Paris Saint-Germain aura le temps de faire jouer la triplette Neymar-Messi-Mbappé, même si, à mon avis, n'en faire jouer que 2 sur 3, ce serait pas plus mal pour le Paris Saint-Germain et son replacement. Donc les questions sont beaucoup plus larges, et pour moi, Messi, c'est... Alors, c'est pas un détail là-dedans, parce que c'est Messi, mais Messi, pour moi, en un mois, il a le temps d'être sur pied. En revanche, est-ce que le PSG a le temps? Ça, je ne sais pas, et c'est plus là-dessus que je suis inquiet.
Moi, je te rejoins, c'est que je ne suis pas du tout inquiet pour Lionel Messi. Il a joué 16 matchs sur 27 cette saison, semble-t-il. On va prendre juste un exemple. L'exemple de Neymar en 2020, avant d'affronter Dortmund, il rate les 3 matchs précédents pour une contusion thoracique. Entre, je crois, début octobre et fin novembre, il ne joue pas à cause de lésions aux ischios, me semble-t-il. Donc, il est sur une saison tronquée.
Il joue pas souvent, lui. Hein.
Ouais, non, il joue pas très souvent. Tout ça pour dire qu'il arrive en huitième de finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Alors, l'aller, il n'est pas fantastique. Il marque. Ouais. Entre les deux, il y a 2 matchs. Il en rate un pour suspension. Au retour, il est très, très bon. Il marque. Il marque à l'aller ou au retour. Ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là, les mecs de cette trempe-là, que ce soit Messi ou Neymar, ils n'ont pas besoin de s'entraîner, d'être chaud, je ne sais quoi. L'odeur des grands matchs, ça leur suffit, c'est ce qu'ils aiment. Et Messi, il est venu au Paris Saint-Germain pour jouer face au Real Madrid.
Je pense même que jouer face à Brest, à Reims et même face à Rennes ou Lille, ça l'enquiquine quelque peu. Donc, de toute façon, il n'a pas besoin de cette rampe de lancement. Après, je suis d'accord avec toi, si tout s'était bien passé jusqu'ici, si tout était nickel, ça poserait sans doute moins de problèmes. On a vu quand même qu'en Ligue des Champions, il était un tout petit peu meilleur qu'en Ligue 1, parce que c'est toujours la même chose. Il est plus concerné, on le concerne plus, le Paris Saint-Germain est plus concerné, donc c'est un cercle vertueux. Donc, est-ce que je suis inquiet pour Messi? Non. Est-ce que je suis inquiet pour le Paris Saint-Germain? Tu l'as très bien dit. On doit être plus inquiet pour l'expression collective de ce PSG qui n'a rien montré, même si c'est un peu toujours la même histoire avec le Paris Saint-Germain. Et on a vu ce qui s'est passé face au Bayern Munich l'an dernier, ce qui s'est passé face au FC Barcelone l'an dernier. C'est-à-dire que tu peux avoir un championnat qui reste moyen, moyen moins, et avoir des hommes qui sont transfigurés en Ligue des Champions. Je ne crois pas à la théorie « il faut juste appuyer sur un bouton, le bouton Ligue des Champions pour que l'équipe se transforme », sauf avec le Paris Saint-Germain, où je suis bien obligé de constater qu'année après année, et ce qui marche, et ça marche notamment pour Messi.
Oui, mais non, parce que ça marche sur des coups, ça marche sur un tour, voire sur deux. Et si tu prends le parcours de l'année dernière, ils éclatent le FC Barcelone. C'est brillant, mais bon, le FC Barcelone, voilà, mais c'est brillant. Contre le Bayern, bah, ça commence déjà à décliner, malgré les apparences. Souvenez-vous, le match aller à 31 tirs et le retour avec la grosse fire. Souvenez-vous que cette année, dans ces conditions-là, il y a prolongation. Et après, City, ça flingue. Donc, à un moment, le PSG, on ne gagne pas une Ligue des Champions en n'ayant pas une grande équipe. Voilà. C'est très rare, c'est même pas possible. Il faut qu'il y ait une expression collective, même si ce n'est pas l'expression collective léchée qu'on imagine à la Guardiola, à ce que vous voulez, il faut une expression collective. Et en fait, le truc, c'est de dire les 4 prochains matchs après Brest sont indispensables pour Messi, juste pour le physique, je pense, et pour le football du PSG, tout simplement. Parce que comment mettre un PSG et un football en place si vous n'avez pas vos acteurs et sinon, ça revient à dire, comme tu dis, on appuie sur le bouton, mais Messi en Ligue des Champions, c'est un peu comme si tu achètes la Joconde et que tu ne la ressors que pour les grandes occasions, que quand tu vas au Louvre et que le reste du temps, elle est dans le grenier. Donc ça, ce n'est pas possible. À un moment, il faut aussi qu'il soit là, qu'on le voit, et que c'est une construction globale. Et j'espère pour le Paris Saint-Germain que ce sera le cas, qu'il ne va pas se retrouver à... non pas à choisir ses matchs, mais que les autres les choisissent pour lui. C'est-à-dire, ah oui, mais on ne va peut-être pas le faire jouer là, parce que ça ne marchera pas.
De facto, les matchs, ils sont choisis de toute façon, Maxime. De facto, et même, quand tu regardes la saison du Paris Saint-Germain, tu vois que les matchs, ils sont choisis. Alors, que les mecs soient là ou ne soient pas là, qu'il y ait Messi, Neymar ou Mbappé. Alors, Mbappé, non, paradoxalement,
c'est l'exception.
Lui, voilà, exactement, c'est l'exception. C'est-à-dire que même au-delà des attaquants, c'est l'exception dans ce Paris Saint-Germain-là. Mais ce PSG construit de cette façon-là.
Ah oui, mais
il a construit son ADN, son histoire récente. Je pense que ça convient aussi à l'actionnaire, parce que l'actionnaire, c'est un actionnaire bling-bling qui cherche, qui n'existe pour le Paris Saint-Germain que pour aujourd'hui la Ligue des Champions. C'est-à-dire que regarde la perte du titre l'an dernier. On n'a pas l'impression que ça a été vécu comme un traumatisme du côté de Doha. En revanche, si tu te fais sortir par le Real Madrid en 8e de finale cette saison-là, ça sera vécu comme un traumatisme. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui se passe entre les matchs des champions, et je serais même tenté de te dire entre la demi-finale de l'an dernier et l'huitième de finale quasiment cette année, ça ne compte pas.
Oui, mais c'est une erreur.
Je dis pas que c'est. Attention à ce que je dis. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que c'est parce bien que comme ça. Je ne dis pas que le PSG réussira comme ça. Je constate, c'est tout.
En fait, ça donne l'impression, c'est un peu. Jusqu'ici tout va bien, on chute, jusqu'ici tout va bien, parce que ça passe avec des champions, et puis à un moment tu prends le sol. Donc à un moment il faudra aussi que tu construises quelque chose, parce que en championnat par exemple, alors ça porte pas préjudice parce que le PSG a trop d'avance sur le reste de la meute, mais ça fait 5 matchs et il y a eu 4 nuls. Enfin, dans l'histoire de QSI, c'est quand même quelque chose de rarissime.
4 nuls dont
2 sauvetages à la dernière minute avec Lens et Lorient.
Et Lyon et...
Et Lyon, c'est pas terrible. Donc là, on peut. C'est ce que tu dis. Il y a le bouton de dire c'est avec des champions, mais ça, c'est un mythe pour moi. Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, à quand une équipe de France arrive devant une grande compétition et on se dit l'odeur de la compétition, ça va les réveiller, etc. Ouais, ça marche des fois parce qu'il y a un aspect commando. Mais un aspect commando, à la rigueur, ça va tenir des fois parce que c'est sur un espace réduit et une temporalité réduite. Là, le commando du Paris Saint-Germain, il commence le 15 septembre, il doit se finir je sais plus quand est la finale, le 29 mai ou le 3 juin. Donc en gros, il faut tenir une opération commando là-dessus. Donc c'est plus compliqué et c'est pour ça que je le dis. Ça ne veut pas dire que contre Real Madrid, ça va être problématique. Ça se trouve, ça va passer. Mais ce qui est dur, c'est de garder une forme de régularité dans le résultat alors que tu es complètement irrégulier au niveau des prestations. Et c'est plus ça qui est inquiétant. Je ne suis pas forcément inquiet pour le Real Madrid. C'est de me dire que le PSG doit passer 3 tours avant la finale en jouant comme ça. Et ça me paraît impossible.
Sur ce côté-là, on se rejoint. Mais pour revenir sur la question de départ, Messi peut-il vraiment être prêt pour affronter le Real Madrid?
Oui.
Je pense que du coup, on est d'accord.
Et la vraie question, c'est est-ce que le PSG sera prêt?
Voilà, et là aussi, on est d'accord. On passe au dernier sujet, Maxime ?
Ouais.
Vas-y, pardon. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, pardon, je t'ai coupé, c'est pour ça que je disais pardon, vas-y. Je parlais par-dessus.
Ça, c'est le problème d'être avec Maxime, c'est que alors, les gens ne le voient pas. Mais il y a un problème aussi d'ego. C'est-à-dire, j'ai fait la transition entre le premier et le deuxième sujet.
Ouais, là, c'est...
Et donc, il ne supporte pas
là,
que je fasse la transition.
Ah, mais je peux dire, il y a deux choses que j'aime pas dans la vie : les shoots de Bruxelles. Et de me faire piquer mes transitions.
Voilà.
Et en numéro 1 ou 2, je ne sais pas lequel, mais ça, normalement, les transitions, c'est sur mon contrat. J'ai une prime de 4 euros à la transition.
Les gens ne sont pas nus. Bref, donc il y a As qui nous affirme ce vendredi que Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de Manchester City de se boucher un peu les fesses et de réaliser un effort conséquent pour recruter Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund cet été. On sait qu'a priori, Haaland quittera Dortmund en juillet ou en août, que dans son contrat, il y a une clause qui figure et qui stipule qu'en cas d'offre de 70 millions d'euros, 75 millions d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose pour un buteur avec de telles statistiques, il pourra aller voir ailleurs. Et donc, a priori, si on en croit ce vendredi la presse madrilène, Manchester City, pressé par Guardiola, pourrait entrer dans la danse. Maxime, ma question est simple. Est-ce que rejoindre Manchester City et Guardiola, ce serait une bonne idée pour Erling Haaland?
Alors moi, j'ai envie de penser que oui. Alors déjà, il y a le symbole. Ce serait marrant de voir Haaland dans le club de son papa. Voilà. Sachant que le papa a connu une Manchester City qui n'avait pas vraiment la même allure que celui d'aujourd'hui. C'était, on va dire, le club au rabais et bien plus de l'Angleterre et même surtout de Manchester. Et je trouve que le symbole serait sympa de le voir. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonné quand j'entends à Manchester United. C'est quand même le club qui a, avec un des joueurs de Manchester United, Roy Keane, qui a précipité la carrière du Papa Haaland vers l'abysse, vers la fin. Donc, je trouve que c'est bizarre. Mais en revanche, j'aimerais bien un clin d'œil. Après, il y a le côté, on va dire, raisonnable et raisonné de ça. Pourquoi on se pose la question, d'ailleurs, il faut déjà le dire, pourquoi on se pose la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller à Manchester City et Guardiola? Parce que Guardiola, c'est quand même le chantre du « je joue sans neuf, je joue très bien sans neuf, j'ai pas besoin de neuf » et on marque beaucoup de buts. Donc là, de se dire, mais pourquoi donc il veut Haaland? Alors, il suffit un peu de réfléchir à ce qu'est Guardiola. On peut déjà se dire que cet été, Guardiola n'a pas voulu de Messi. Peut-être qu'il avait déjà une petite idée en tête, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de l'argent à dépenser l'été prochain et qu'il vaut mieux peut-être attendre un an et récupérer un joueur comme ça. On sait qu'Haaland, c'est le plus gros morceau sur le marché, derrière évidemment Kylian Mbappé, et que Kylian Mbappé, ça ne fait pas trop de mystère, il ira au Real Madrid. On dit aussi que Guardiola n'aime pas trop les neufs. Il a eu des problèmes au début au Bayern avec Mandzukic, qui n'appréciait pas de jouer, mais en vrai, il n'a pas de problème avec les neufs. Il n'a pas de problème avec les très 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 grands neufs. Lewandowski, a priori, ça s'est pas trop mal passé, même si la première saison était peut-être un peu plus difficile, mais c'était peut-être aussi fait à Lewandowski. Vous allez me dire, Agüero, il jouait pas tout le temps, mais je pense que ça s'est quand même globalement bien passé. Est-ce qu'il faut toujours réfléchir avec Guardiola, qui est quand même un type qui a toujours un coup d'avance sur les autres? C'est peut-être que déjà, il réfléchit à Haaland et de réfléchir à comment il peut se réinventer. Il est toujours constamment en train de penser à sa réinvention. Souvenez-vous au Barça qu'il avait pensé un moment, il ne l'avait pas fait jouer à deux défenseurs seulement quand ils auraient le ballon. Là, il y a Cancelo avec les latéraux qui reviennent dans l'axe. Il y a peut-être qu'il a déjà un coup d'avance et qu'il se dit que Haaland serait le joueur parfait pour faire ça. Pour ces raisons, moi, ça m'excite assez de voir Haaland, et puis voir Haaland en Première Ligue, ça ne gâcherait pas mon plaisir. J'aimerais vraiment voir ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez excitant là-dedans.
Moi, il y a deux choses sur Haaland à Manchester City. Comme toi, je pense qu'il pourrait se fondre parfaitement au système Guardiola, même si c'est un peu contre-intuitif quand tu vois le gabarit d'Haaland, quand tu vois ce qu'il dégage. Puis, ce n'est pas un joueur qui est forcément impliqué dans la construction. Or, tu te dis que dans les équipes de Guardiola, on a besoin d'un attaquant qui est impliqué dans les constructions. Haaland, en moyenne, c'est un joueur qui touche assez peu de ballons. Je crois qu'il en touche même moins qu'un Lewandowski en Bundesliga. Et on touche beaucoup moins qu'un Mbappé, beaucoup moins qu'un Bah, évidemment, qu'un Lionel Messi, je crois que c'est deux fois moins. Donc voilà. Mais c'est un faux grand, en fait. Parce que c'est un joueur déjà qui a grandi, qui a eu sa poussée de croissance très, très tard, et donc qui a joué, quand il était jeune, sur d'autres qualités. C'est un joueur qui va très vite aussi, et surtout, qui a une intelligence de jeu et de placement. C'est-à-dire tout ce qu'aime et tout ce que veut Guardiola. C'est un attaquant parfait pour créer, pour trouver et pour attaquer l'espace. Alors, donc ça, dans le système de Guardiola, ça fonctionne. La pire erreur, en fait, ce serait de faire d'Haaland le nouveau Zlatan Ibrahimovic. Parce que c'est vrai que tu as un côté puissance, un côté grand gaillard, un côté neuf, un côté début dans la surface, qui pourrait permettre de tracer un raccourci assez facile entre Zlatan et Haaland, mais Haaland n'est surtout pas Zlatan. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, Guardiola compatible dans le jeu, dans le profil, je dis oui. Après, j'ai une énorme limite qui n'a rien à voir avec le terrain, qui n'a rien à voir avec le jeu, qui n'a rien à voir avec les finances de Manchester City, mais qui a à voir quand même, et je trouve qu'on en parle assez peu, avec Mino Raiola. C'est-à-dire que Mino Raiola et Pep Guardiola sont quand même deux ennemis intimes. En 2018, je rappelle juste, et je vais faire vite, c'est Raiola qui était revenu sur le traitement qu'avait infligé Guardiola à son joueur Zlatan Ibrahimovic. Et il avait dit, ouvrez les guillemets, c'est un lâche, un chien en tant qu'entraîneur, il est fantastique, mais en tant que personne, c'est un zéro absolu. Un chien, un lâche, c'est comme un prêtre, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Si Manchester gagne la Ligue des Champions, on dira, oh, quel entraîneur, mais je détesterais ça. Et c'était une intervention médiatique à l'époque qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait fait réagir Guardiola en conférence de presse, qui avait dit, j'ai beaucoup de rivaux et Raiola fait partie de ceci, voilà, etc. Et qui avait dit dans cette conférence de presse, tiens, c'est étrange, parce que Mino Raiola, il m'avait proposé Paul Pogba. Et on l'avait pas pris. Et en avril dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça aussi c'est important, il y a Pep Guardiola qui parle assez peu des joueurs qu'il veut ou des profils qu'il veut. Enfin, voilà, c'est pas un entraîneur qui va tout déballer. Et ben, en conférence de presse en avril dernier, il était revenu sur le cas Haaland et il avait dit non, on ne fera pas Haaland parce que tous les clubs ont des problèmes financiers, nous aussi. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de s'offrir Haaland. C'est impossible, on ne peut pas se l'offrir. Il avait dit ça en avril. Et l'été qui suivait, City craquait 117 millions d'euros.
Jacques Grealish à la place.
Jacques Grealish. Pourquoi il avait fait ça, Guardiola ? Parce qu'il ne voulait pas rentrer à l'époque dans le jeu qu'avait instauré Mino Raiola sur on va faire monter les enchères pour Haaland. Et tout de suite, il avait mis City hors du jeu, ce qui n'avait pas fait les affaires de Mino Raiola. Guardiola, il est très orgueilleux. Guardiola, il n'oublie pas ce qui s'est passé. Et attention, parce que je pense qu'il n'a pas oublié ça. Et moi, j'attends de voir. Si Guardiola veut vraiment dans l'Andes, alors qu'il le veuille peut-être, mais est-ce qu'il veut traiter avec Raiola ? Ça, j'en suis pas sûr. Et alors, pour moi, c'est la grosse, grosse limite de ce dossier-là.
Que Guardiola soit orgueilleux et peut-être même un peu rancunier, je n'en doute pas. On arrive très bien à cerner le personnage qui a des idées, je pense. Parfois arrêté. Mais en revanche, Mino Raiola, je pense qu'il sait que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de mémoire.
Et oui, mais, ouais, mais au contraire, le patron de City, ça reste quand même Guardiola.
Ouais, mais le jour où il sera, City amènera, je sais pas, là c'est 75 millions, mais je pense qu'il faudra aller un peu plus haut pour une surenchère entre les clubs. S'ils mettent l'argent, je pense qu'il sera très content de toucher sa commission. Voilà. Tant que Guardiola ne demande pas à City de ne pas donner de commission à Mino Raiola, il prendra. Et vous verrez que Raiola dira que demain que Guardiola est un entraîneur formidable quand son joueur réussira à Manchester City. Concernant Zlatan, oui, tu as raison. Et je pense qu'il ne considère pas comme Zlatan, justement, Guardiola. Parce que s'il considérait comme Zlatan, il n'essaierait même pas de l'avoir. C'était trop douloureux, on va dire, la gestion du cas Zlatan et leur cohabitation pour ça. Donc, je pense qu'il est assuré d'avoir quelque chose avec Haaland. Et moi, c'est pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai très envie de savoir ce qu'il voit dans Haaland et comment il compte l'utiliser. Parce que je suis à peu près certain qu'il sera obligé de changer un peu son logiciel. Parce que, comme tu l'as dit, même s'il est mobile, même s'il a développé d'autres qualités, Manchester City ne jouera pas comme ça. Et étant donné que Guardiola a toujours une idée ou un truc à tenter, alors est-ce que ça marcherait, est-ce que ça ne marchera pas, je n'en sais rien, mais je suis quand même très curieux de le voir là. Et pour être tout à fait honnête, j'ai plus envie de le voir à Manchester City qu'à Barcelone, parce qu'on a beau me dire qu'Mbappé versus
Voilà. Alors, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec toi.
Ça, c'est du, non, c'est du flan. Recréer des rivalités en carton-pâte comme l'année dernière, quand l'autre met 3 buts et que le lendemain, ça m'a motivé pour en mettre 2. Ouais, c'est bon.
Non, c'est une vraie rivalité. Ça peut être une vraie rivalité. C'est pas encore aujourd'hui une vraie rivalité, mais en tout cas, on sait que ces deux hommes-là, ça fait quand même quelques saisons qui dominent derrière Messi et Ronaldo, mais qui sont là.
Non, qui dominent pas, justement.
Oui, ils sont là, ils sont juste derrière, mais ils sont très jeunes, Maxime. Et sur les 5, 6, 7, 8, 9, 10 prochaines années, ce peut être eux. Ce ne sera peut-être pas eux, mais ce peut être eux. Et moi, j'aimerais que ces deux hommes-là, déjà, ne se retrouvent pas dans le même club pour cette raison.
Ah oui, non, ça, oui, c'est sûr.
Parce que je pense que l'histoire du football, le football a besoin, comme ça, d'antagonisme, a besoin de construire des histoires, un peu les Maradona, Messi, Ronaldo. On a besoin tout le temps de ces histoires-là, d'avoir deux grosses personnalités qui incarnent quelque chose dans deux grands clubs. Que ça soit dans le même championnat, ça rajouterait du sel, évidemment. Et comme Mbappé va aller au Real Madrid, moi, je serais assez pour que Haaland aille en Espagne. Ouais. Et si c'était Real Madrid Barça, moi, je trouverais ça assez exceptionnel. Et ça permet de redonner du corps, de raconter des belles histoires, etc. Moi, j'aimerais ça.
Mais il faut qu'apparemment, s'il va au Barça, il faut que Piqué étale son salaire sur les 50 prochaines années, il me semble.
Ça, donc, c'est un autre problème. Okay. Mais moi, je te parle juste de mon souhait à moi. Au-delà de toute considération économique.
Quand on a commencé à faire de Messi et Ronaldo des rivaux, c'était même pas au moment… Ils avaient déjà un ballon d'or tous les deux. Avant, même à Manchester, voilà. C'est parce qu'ils sont arrivés face à face, en effet. Mais j'ai envie de croire, et même j'ai cette impression-là, même si ce n'est pas le truc dont j'ai été le plus fan sur la dernière décennie, que ce n'était pas un truc fake, qu'il y avait une rivalité entre les deux. C'est un vrai antagonisme. Là, l'impression, encore une fois, je fais toujours référence à cette phrase d'Haaland quand il dit Mbappé a mis 3 buts hier, ça m'a motivé pour en mettre 2. Ouais, c'est bon, si tu as besoin d'être motivé parce que fait l'autre en face, non, non. Et puis j'ai l'impression qu'on essaye de monter un truc autour des deux. Moi, je ne mords pas pour l'instant. Peut-être que demain, ce sera ça, peut-être qu'on sera très content. Mais pour l'instant, je ne mords pas là-dessus parce que je pense qu'ils n'ont pas atteint le niveau, et surtout d'ailleurs Haaland, pour être considérés comme des rivaux au top niveau. Voilà. Parce que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission de faire un comparatif Mbappé-Haaland, mais je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Mais ça, c'est une autre question.
Eh ben, j'espère que je serai invité dans cette émission, Maxime.
C'est possible, si tu ne prends pas les transitions.
Je ne prends plus les transitions, c'est promis. Je te laisse la conclusion du coup, Maxime.
Écoute, on peut faire la conclusion. Est-ce que tu es prêt à la faire en chanson?
Il y a...
Non, mais c'est une question.
Mais moi, tu sais que j'aime chanter.
Et je sais que t'aimes ça. Il paraît que t'as
chante matin, midi et soir. Et toi aussi, Maxime.
Je chante beaucoup sous la douche et chez moi, mais avec le son très fort. Comme ça couvre un peu ma voix.
Non, mais moi j'ai un amour de la chansonnette. Je dois l'avouer. Et je suis très tranquille avec ça. Il n'y a aucun souci. Après. Qu'on réutilise des dossiers vieux de quasiment 10 ans maintenant pour les tourner à sa sauce et humilier, parce que là on ne parle pas d'autre chose, et d'humilier.
Tu remercieras Stromae, c'est tout, c'est pas de ma faute, j'ai vu
parce
ça.
Que je rappelle à tout le monde que Maxime est mon N+1, je pense qu'au prud'homme là, je prends mon petit paquet de billets.
Enfin, c'est con, c'est le moment des augmentations.
Je prends mon petit paquet de billets, Maxime. Donc continue de m'humilier, ça se finira
plus. Ça dit, alors on peut faire ça, mais le problème qu'au prud'homme, c'est-à-dire que tu dois remettre la chanson.
Ouais, alors
et peut-être ça peut avoir un effet contraire. Vice de procédure.
Si le juge aime bien Stromae, si le juge aime bien Orelsan, pourquoi pas
hein. Oui, si tu mets la version d'Orelsan.
Ça peut passer.
Bon, je crois qu'on a tout dit.
Ouais,
on a tout fait. Même. Voilà. On vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit.
On espère. À la semaine prochaine du coup, et c'est moi qui dis au revoir en dernier.
Salut.
Ciao.